Les grandes heures de la France par Octave Aubry. Chapitre 6e, la Renaissance. François Ier et Charles Quint. Le 1er janvier 1515, François de Valois, duc d'Angoulême, gendre et cousin de Louis XII, reçoit la royauté pour étrenne. Athlète de 20 ans, il a le teint vermeil, un visage assez beau, en dépit du front trop bas, du nez trop long. C'est un chasseur infatigable, un fougueux jouteur. En même temps, par une rencontre singulière, il doit à sa mère Louise de Savoie, à sa charmante sœur Marguerite de Navarre, un goût noble de l'art. Avec moins d'intelligence que d'esprit, de culture que de mémoire, il est brave, loyal, prodigue, fanfaron, passionné de gloire. Il est aussi, et à l'excès, galant. Ce Valois semble réunir les qualités comme les défauts de la France. La nation l'adopte tout de suite, elle se reconnaît en lui. Du premier jour, sa pensée va vers l'Italie, ce merveilleux pays, divisé et changeant, qui a échappé de si peu aux deux derniers rois. Il veut le reconquérir et, comme lui, sa jeune noblesse exubérante, infatuée à son image. 4 mois seulement, employé à traiter avec Henri VIII, toujours à vendre, avec Maximilien qui vieillit et s'apaise, et François Ier, laissant la régence à sa mère, franchit les Alpes. À Marignan, il se heurte aux Suisses. La bataille dure 2 jours, dans une mêlée extrême. Découragé, l'ennemi se retire en bon ordre, ayant perdu près de 15 000 hommes. François s'est battu en preux. Sur le champ de bataille, après la victoire, il s'agenouille devant le plus beau soldat de ce temps, Bayard, le petit noble sans peur et sans reproche, dont toute la France est fière, et lui demande de l'armée chevalier. Nous sommes le 13 et le 14 septembre 1515. Maximilien d'Autriche meurt au seuil de l'année 1519. François est candidat à la couronne impériale. Charles d'Espagne, petit-fils du vieil empereur, l'emporte. Il prend le nom de Charles Quint. Il est né flamand, mais son sang français, espagnol, allemand, anglais, le rattache à toutes les dynasties. Il incarne le type même de l'Européen, du cosmopolite. L'une après l'autre, il a recueilli les successions du Téméraire, des rois catholiques, de Maximilien. Il possède ainsi les Pays-Bas, la Hollande, l'Artois, la Franche-Comté, l'Espagne, le royaume de Naples et les domaines autrichiens des Habsbourg. Élevé avec soin, il parle toutes les langues de ses sujets. Son caractère est âpre et profond. Ambitieux, tenace et calculé, il possède un véritable génie politique. Commence alors la terrible lutte, capitale dans l'histoire de l'Europe, entre les Capétiens et les Habsbourg. La France court un danger mortel. Charles Quint est sur toutes nos frontières, prêt à nous écraser. Il a d'immenses ressources d'hommes et d'argent, d'habiles ministres, de grands généraux. Aussi des faiblesses. Trouble en Allemagne où Luther a commencé la prédication qui va briser l'unité de l'Église, menace des Turcs qui descendent victorieux vers le Danube des pentes du Balkan, épuisante guerre de pirates soutenue dans la Méditerranée par les barbaresques, enfin diversité excessive des intérêts et des sentiments chez les peuples qui lui sont soumis. En face de lui, le roi de France dispose d'un seul royaume, maigre, prospère, nombreux. Son autorité n'y est pas contestée. Elle y est même, et pour la première fois, presque absolue. François Ier, conscient du péril, accepte résolument le combat. Il va durer 2 siècles, avec des alternatives tragiques, mais à la fin, c'est la France qui vaincra. Écrasé à Pavie en 1525, le roi y est fait prisonnier. Désastre comparable à celui de Poitiers. François peut écrire à sa mère « De toute chose, ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve ». Il est transporté à Madrid pour y subir une prison sévère. Charles Quint n'est pas généreux. Il abuse de sa victoire. Il croit voir la France dans sa main. Il n'a qu'un roi que la France désavouerait s'il voulait la livrer. Charles Quint bientôt doit limiter ses premières prétentions. Il n'exige plus que la Bourgogne et l'abandon de l'Italie. François, après avoir en secret protesté devant un notaire contre la violence qui lui est faite, se résout à signer la paix. 2 de ses fils demeureront à Madrid en otage. Pour lui, il gagne Bayonne à Franck Étrier le 14 janvier 1526. Pareil traité ne saurait s'exécuter sans un soulèvement de l'opinion française. Le roi le sait bien. Aussi ne tient-il pas parole. Et la guerre recommence, infiniment trouble et dispersée. En dépit de victoires multiples, Charles Quint s'épuise. Les Turcs de Soliman ayant effondré la Hongrie sont sous les murs de Vienne. Les protestants d'Allemagne se dressent contre lui. Il a besoin de la paix avec la France pour sortir de tant d'embarras. Cette paix, négociée à Cambrai par sa tante Marguerite d'Autriche et par Louise de Savoie, nous laisse la Bourgogne en 1529. Durant les 5 années que dure le traité de Cambrai, François Ier règne en monarque fastueux. Il commence la construction du Louvre, bâtit les châteaux de Chambord et de Fontainebleau, où il réunit des tableaux et des sculptures d'Italie. C'est le côté brillant du décor. Il en est un autre, moins apparent et plus durable. Il réorganise l'armée et la marine, fonde le port du Havre, encourage les exploits de Jacques Cartier et entreprend la colonisation du Canada. Le roi de la Renaissance. Aux yeux de l'avenir, le principal titre de gloire de François Ier reste dans l'intérêt qu'il n'a cessé de montrer aux savants, aux écrivains et aux artistes. Il s'en entoure, les traite en familier, leur fait largesse. Poète lui-même et écrivain de lettres charmantes, François Ier aide au début d'Amyot, libre et vivant traducteur de Longus, rénovateur du vieux Plutarque où tant de générations françaises iront chercher les exemples antiques. Clément Marot, délicat rimeur de fables et de rondeaux, est longtemps son protégé, jusqu'au jour où, suspect d'hérésie, il s'enfuit auprès de Calvin. L'immense Rabelais, l'un des plus complets génies de notre langue, qui travestit une philosophie profonde sous d'exubérantes bouffonneries, s'il n'est point son direct obligé, jouit de sa bienveillance amusée. Le roi, pour peintre, a titré Jean et François Clouet, auteur de merveilleux portraits. Il encourage Jean Cousin, le maître du jugement dernier, Léonard de Vinci, André del Sarto, Benvenuto Cellini, qu'il appelait en France, il travaille pour lui. Le Rousseau et le Primatis créent sous ses yeux un atelier célèbre qui recevra le nom d'école de Fontainebleau. Pour architecte, il a Pierre Lescot, Jean Bullan, Philibert Delorme. Pour sculpteur, Germain Pilon, Jean Goujon. Avant de devenir émailleur, Bernard Palissy est son cartographe. Ainsi, sous toutes ses formes, François a aimé, honoré la beauté. C'est le vrai prince de la Renaissance française. Son souvenir en garde un impérissable reflet. La Renaissance adorait sa vie. La Réforme l'obscurcit un peu. À l'égard des doctrines de Luther et de Calvin, il tient une conduite hésitante, puis incline vers une répression rigoureuse. À la fin du règne, il laissera, non sans remords, massacrer les Vaudois, prétendu hérétique, et ordonnera le supplice d'Étienne d'Olay. Épuisant Thébaine, la guerre recommence en 1536. Une trêve la termine. Les hostilités rejaillissent en 1541. Aucun des deux camps ne remporte encore d'avantage décisif. Le comte d'Enghien bat les impériaux à Cérisole en 1544, mais ne peut conquérir le Milanais. Charles Quint est à Crépy, chacun demeure sur ses positions. La France, hélas, appauvrie, exsangue, des provinces entières ont été ruinées. Le paysan est malheureux. Si brillant par place, le règne de François Ier s'achève dans l'anxiété, le souci. Nous sommes en 1547. Henri II. Henri II va continuer son père avec une contenance, un caractère bien différent. Sa captivité de Madrid semble l'avoir appesanti d'une sorte de flegme triste. Lourd d'épaules et d'âme, sans grâce, sans parole, mais bon soldat, il subit l'influence de sa vieille maîtresse, Diane de Poitiers, et celle des factions de cour, des partis formés autour du connétable de Montmorency, intrigant, avide et hautain, d'un jeune favori, Albon de Saint-André, trop tôt fait maréchal et surtout autour des Guises. Les Guises, qui vont jouer un rôle si important en France durant toute la seconde moitié du siècle, sont des cadets de la maison ducale de Lorraine et par là descendants possibles des Carolingiens. François Ier craignait leur ambition. « Prenez garde, disait-il à son fils, ils mettront leurs enfants dans la pourpre et les vôtres en chemise. » Il en a fait toutefois de grands seigneurs. Ce sont au reste des hommes remarquables. L'aîné, François, est hardi capitaine. Son frère Charles, la forte tête de la famille, orateur et politique délié, cardinal à 24 ans, croule sous les archevêchés et les abbayes. Leur sœur, reine d'Écosse, a fiancé sa fille Marie Stuart au petit dauphin. L'emblème choisi par le cardinal à la mode du temps a de quoi soucier. Un lierre qui s'enroule autour d'un chêne royal. Il l'orne en attendant de l'étouffer. L'empereur menace à nouveau la France. Cette fois, les Valois, qui l'ont trop méconnu, marquent un retour décidé à la politique traditionnelle de la monarchie, la marche vers l'Est et le Nord pour la conquête des frontières naturelles. Dans un conseil tenu le 25 mai 1552, le maréchal de Vieilleville déclare hautement que le grand intérêt de la France est là, qu'elle doit reconquérir la marche de Lorraine et reprendre quelques jours la Flandre et le Brabant, faire rentrer ces territoires dans le royaume d'Austrasie, première couronne des anciens rois. Henri II approuve ce projet. Il attaque et prend les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun. Il n'ose investir Strasbourg, mais il ne quitte le Rhin qu'après avoir fait boire ses chevaux. Avec une puissante armée dont il doit les meilleurs bataillons au margrave de Brandebourg, aïeul des rois prussiens, Charles Quint met à son tour le siège devant Metz. Par un froid terrible, Guise défend la ville avec un brillant courage et force les impériaux à plier leur tente. « La fortune est femme, elle n'aime pas les vieux », dit Charles Quint. Talonné par les Français, il est acculé à traiter. Il conclut à Vaucelles une trêve de 5 ans avec Henri II. La France garde le Piémont et les trois évêchés. Nous sommes en 1556. Charlemagne, inaccompli, ayant rêvé et manqué la monarchie universelle, ayant, sans y parvenir, voulu rendre son unité à l'Église, Charles Quint dépose ses couronnes en faveur de son fils Philippe II et va s'enfermer au sombre monastère de Yust, dans l'Estrémadure. Il y partagera ses 2 dernières années entre la piété et la politique à laquelle cet insigne ambitieux n'a pas renoncé tout à fait. C'est la fin de la grande conception héritée de Charlemagne, celle d'une Europe soumise à l'hégémonie spirituelle du pape, à l'hégémonie matérielle de l'empereur. Le Saint-Empire romain germanique n'est plus qu'un mot glorieux écrit sur un parchemin antique. Les États sont devenus nationaux. Ils s'écartent de la vieille fédération européenne pour chercher une autre forme de coexistence, l'équilibre des forces du continent. La lutte contre Philippe II. Ce grand changement ne se fait pas d'ailleurs sans transition. Aussi dangereux pour la France que l'a été son père, Philippe II va essayer encore de l'abattre. Moins sans doute pour la dépecer, entreprise désormais assez présomptueuse, que pour la vassaliser. Charles Quint a été un Européen. Philippe sera tout espagnol et roi catholique. Il échouera, non sans avoir porté de rudes coups à la France, qui usera dans les soubresauts de la lutte les dernières forces de la dynastie des Valois. Ce n'est pas Philippe, pourtant, qui recommence la guerre, mais Henri II. Montmorency se fait écraser à Saint-Quentin. Trop lent, Philippe ne court pas vers Paris. Henri II le prévient, et avec une nouvelle armée, couvre la capitale. Paris, d'abord apeuré, se rassure et vote des subsides. Une femme courte et commune harangue le Parlement. La reine Catherine de Médicis, fille des banquiers devenus duc de Florence, qui dédaignait du roi, menacée même de répudiation, isolée à la cour, a attendu 20 ans pour faire paraître une âme profonde. Guise, revenu d'Italie à bride abattue, pousse droit sur Calais, l'investit une semaine, le prend. Événement national, plus encore, événement européen. L'Angleterre perd sa tête de pont, sa porte sur le continent tenue de 111 ans. La France, folle de joie, donne son cœur au capitaine heureux. Si pauvre, elle se fouille, retrouve un peu d'or et des hommes pour continuer la campagne. Mais les deux États sont exténués. On traite au Cateau Cambrésis. La France conserve Calais, les trois évêchés et récupère ses villes du Nord. Elle rend le Piémont au duc de Savoie, la Corse aux Génois. Philippe demeure maître de l'Italie. C'est une bonne paix, une paix raisonnable et utile, qui ne plaît certes pas aux soldats, aux quêteurs d'aventure, mais reporte la France vers ses buts essentiels et la fait renoncer à l'Italie. Va se fermer enfin cette plaie, trop longtemps béante, par où tant de beau sang a coulé et qui fut si longtemps une tentation si dangereuse. La paix de Cateau Cambrésis, à ce titre, fixe un jalon notable de l'idée française. Nous sommes en 1559. Cette date marque aussi un autre événement inconsidérable, la constitution par un synode général d'une église calviniste en France. Le protestantisme, dans ces dernières années, n'a cessé de se répandre dans le peuple des villes, les bourgeois, les clercs, les nobles. Au contraire, les paysans n'ont été qu'à peine effleurés. Le roi, Montmorency, les Guises sont résolument hostiles aux religionnaires. Ils veulent, leur idée n'est pas sans valeur politique, rendre à la France l'unité de la foi. Mais ils se trompent quand ils croient y parvenir par le supplice. Déjà, échafauds et bûchers s'installent sur les places des villes, aux applaudissements d'une populace qui sera toujours avide des plus basses émotions. Un conseiller d'État, Anne Dubourg, confesse sereinement la foi protestante et marche à la mort en martyr. Le roi l'a précédé de peu dans la mort. Aux fêtes offertes à l'occasion du mariage de sa fille Élisabeth avec Philippe II, un carrousel est donné devant l'hôtel des Tournelles. Henri y joue en simple gentilhomme. À la fin du tournoi, il insiste pour croiser une dernière lance avec son capitaine des gardes, Montmorency. Les deux cavaliers se heurtent avec violence. L'arme de Montgomery, portée trop haut, se brise sur le homme du roi. Un éclat lui entre dans le cerveau. En dépit des soins d'Ambroise Paré et de Vézal, Henri II succombe après 8 jours d'atroce agonie. Une reine, Catherine de Médicis. Fin soudaine d'un règne favorable à l'extérieur, mais qui, au-dedans, amorce les misérables troubles des guerres de religion. La couronne tombe sur la tête d'un adolescent scrofuleux, adonné déjà au plaisir et qui voit tout par les yeux de sa femme, la nièce des Guises, la belle, savante, inquiétante Marie Stuart. Un an de règne, dominé par les Guises, et François II disparaît. Son frère Charles IX est un enfant. Catherine de Médicis assume la régence. Marie Stuart quitte la cour et bientôt la France pour la triste destinée que lui fileront ses erreurs et la perfidie de sa bonne cousine Élisabeth d'Angleterre. Les Guises, ses oncles, trébuchant de si haut, gardent partie de leur charge mais perdent en fait le pouvoir. Catherine de Médicis force à s'embrasser les ennemis d'hier qu'elle espère neutraliser l'un par l'autre. Appuyée sur un homme bien à elle, le chancelier Michel de l'Hôpital, elle veut et va régner. Elle le peut. Cette grâce italienne, aux mufles lourds, aux teint d'olive, aux yeux bleus immobiles, toujours vêtue de noir depuis son veuvage, a le sens profond de l'État. Si longtemps à l'écart, elle a pris l'habitude de la dissimulation, de la patience. Peu de moralité sans doute, point de scrupules, mais un esprit cultivé, ouvert, indulgent. Une sagesse lâche quand les circonstances deviennent trop houleuses, un instinct juste des nécessités historiques, la connaissance des hommes, le goût des affaires, le souci de tenir la couronne à l'abri des périls extrêmes et gardant la France de la guerre extérieure, la volonté de lui rendre la paix au-dedans. L'hôpital, vieux et fermé magistrat d'Auvergne, humaniste et poète latin à 16 heures, a comme elle horreur des dissensions civiles. Il aime la France, la royauté, le peuple, à la fois sujet fidèle et droit citoyen. Prudent, sans manquer de courage, il a dévoué sa vie et ses forces au pays. Ce grand légiste est avant tout ce qu'on appellera plus tard un patriote. Maître et serviteur vont tous deux longtemps parmi les pires orages, travailler du meilleur de leur intelligence à empêcher l'État de se dissoudre et la nef royale de sombrer. Ils y auront grand-peine, environnés par les haines des partis, la flamme des croyances adverses, le leurre des intérêts, la convoitise de l'étranger. Et ils mourront l'un et l'autre, sans avoir vu luire cette terre promise qu'on n'atteint jamais pour longtemps, la paix civile. Pour apaiser les dissensions religieuses, l'hôpital publie l'édit de tolérance de Saint-Germain le 17 janvier 1562, qui autorise le culte réformé dans toute la France, mais en dehors des grandes villes. C'est laisser un avantage marqué aux catholiques. Ils forment du reste les 5/6 de la population. Le clergé proteste. Paris s'agite. Le Parlement refuse d'enregistrer l'édit. L'hôpital tient bon. Il envoie aux magistrats des lettres de jugement et fait disperser les mutins. Les guerres de religion. La sagesse va-t-elle triompher? Non. La reine et le chancelier ont affaire à une trop violente volonté de désordre. Contre eux s'est formée, pour la destruction par tout moyen de l'hérésie, une sorte de triumvirat composé du duc de Guise, du connétable de Montmorency et du maréchal de Saint-André. Dans toutes les provinces, par des meneurs à eux, ils font allumer l'incendie tout près. Une année de guerre civile, une grande bataille à Dreux, où disparaissent, tués ou prisonniers, les principaux chefs des factions opposées, Enfin, l'assassinat par Poltrot de Méré de François de Guise éclaircisse la situation. La lassitude a un peu amorti les rancunes. Après bien des conciliabules, la reine-mère fait accepter la pacification d'Amboise en 1563, qui garantit la liberté de conscience et autorise, dans certaines limites, le culte protestant. Catholiques et calvinistes vont de concert recouvrer le Havre qui avait été livré aux Anglais. 4 années de paix bien chancelante, et la guerre civile se rallume. À Saint-Denis, Montmorency bat les protestants, mais est tué. On s'accorde sur une courte trêve. Catherine de Médicis commet dans ce moment une action basse et une grave faute. Elle abandonne l'hôpital qui, par sa fermeté, a déchaîné contre lui tous les partis. « Je sais, disait-il, que ma barbe blanche vous gêne. Mais je reste, car après moi, il n'y aura plus que de la boue et du sang. » La reine-mère, pourtant, lui retire les sceaux. Et comme il l'a prédit, dès lors, il n'y a plus que du sang, de la boue. La France s'entrégorge. Dans le nord, les catholiques ont l'avantage. Les protestants l'emportent dans le midi, où Jeanne d'Albret, veuve d'Antoine de Bourbon, tuée à la prise de Rouen, a ouvertement établi le calvinisme dans ses états du Béarn et de Navarre. Un succès de l'armée royale contre les protestants à Jarnac, où Condé est pris et tué. De nouveau la paix. Fidèle à sa politique de bascule, la reine-mère accorde aux protestants des avantages inattendus. Le libre exercice de leurs croyances leur est rendu, avec l'admission à toutes les charges, et ils reçoivent 4 villes de sûreté, La Rochelle, Montauban, Cognac et La Charité, où ils pourront tenir garnison. Cette dernière concession est extravagante. Elle fonde une république calviniste au cœur du royaume. Les catholiques indignés nomme la paix de Saint-Germain la paix honteuse. Elle n'est au demeurant qu'une trêve. Charles IX, tout en laissant l'ensemble des affaires à sa mère, commence d'y prendre plus de part qu'elle ne le voudrait. Ce roi de 20 ans, qui vient d'épouser la fille de l'empereur Maximilien II, est un étrange composé. Brutal, jaloux, ami des plaisanteries lourdes, passionné de chevauchée et de chasse en dépit de son sang travaillé par de fâcheux levains, il est mélancolique, inquiet, attiré par la mort. Il est généreux et d'un cœur assez tendre. Il a fait quelques beaux vers, revus plus ou moins par Ronsard. On trouve en lui une espèce de grâce déséquilibrée et malade. Sous l'influence de l'amiral de Coligny, calviniste austère, que le roi aime beaucoup, appelle son père, Charles semblait incliné de plus en plus vers une politique favorable aux réformés. Les Guises et leurs partisans maugréent. Catherine a peur. Paris, prêché par des curés et des moines guisards, s'excite contre le mariage d'Henri de Navarre et de la belle Margot. On leur prédit des noces vermeilles. Mais dans ce mariage, Charles IX voit le symbole de la paix intérieure. Il le presse. Margot est mariée sur le parvis Notre-Dame, Henri étant resté huguenot. La Saint-Barthélemy. Devant le soulèvement de l'opinion publique, déchaîné par les Guises, la reine-mère et son fils Henri d'Anjou, en tout son confident, en viennent à les laisser assassiner l'amiral. L'attentat échoue. Charles IX est saisi d'une colère terrible. Se sentant menacé pour sa complicité, la subtile Florentine s'affole, perd tout équilibre. Le soir du 23 août 1572, elle assiège le jeune roi, lui remontre que les Huguenots ne tarderont pas à se dresser contre lui-même, qu'il n'aura pas une seule ville de France où se retirer. Qu'il n'est qu'un remède, autoriser les Guises à prendre les devants en arrêtant ou tuant les meneurs protestants, quitte après à se débarrasser des Guises. Ainsi la monarchie triomphera des deux factions qui l'oppriment. Le roi est si nerveux, si instable, prend peur à son tour et après un long débat, consent. Catherine et Anjou avertissent Henri de Guise qu'il a le champ libre. Il est minuit. Un peu avant le jour, Catherine et le duc d'Anjou, qui ont épuisé les heures en paroles, s'épouvantent à l'idée du sang qui va noyer Paris. Ils donnent contre-ordre. Guise fait répondre qu'il est trop tard. Un coup de pistolet tiré du Louvre à l'aube du 24, jour de la Saint-Barthélemy, donne le signal. Guise entoure l'hôtel de Coligny de ses coupe-jarrets, pour la plupart suisses et allemands. L'un de ces derniers, BM force avec un épieu la porte de l'amiral, qui s'est élevé au bruit et, prévoyant la mort, se faisait lire la prière. Son regard tranquille fait blêmir les assassins. BM seul avance. « Jeune homme, » dit Coligny, « tu viens contre un blessé et un vieillard. Frappe, tu n'abrégeras rien. » L'Allemand l'éventre de son épieu. Les autres l'achèvent et le jettent par la croisée au pied du duc de Guise, qui attendait dans la cour et qui, de sa botte, le frappe au visage. Le tocsin sonne. Le massacre envahit le Louvre même, où les gentilshommes protestants sont tués à coups d'épée ou de dague. Seuls Henri de Navarre et le jeune Condé échappent. Charles IX les a retenus dans sa chambre. Dans toute la ville, ce jour et les deux jours suivants, la tuerie continue et aussi le pillage. L'affreuse tourbe de Paris, qu'on retrouve prête à chaque époque malheureuse depuis la guerre de Cent Ans jusqu'au massacre de septembre, s'en donne à cœur joie. Les rancunes privées, les plus sordides intérêts, profitent de l'occasion. L'hôpital, retiré près des Temples, était des premiers désignés pour périr. Quand les meurtriers envoyés par Guise arrivent, il leur fait ouvrir la porte de son château, mais il est sauvé par une troupe expédiée par le roi qui l'assure de son pardon. « J'ignorais, dit le grand vieillard, que j'eusse mérité la mort, ni le pardon. 6 semaines plus tard, il succombera de chagrin. » Henri III. Depuis la Saint-Barthélemy, Charles IX, tuberculeux, épuisé par ses chevauchées, ses chasses, miné sans doute aussi par le remords, traîne une vie menacée. Il meurt enfin dans une anxiété affreuse, veillé par sa nourrice, une huguenote, à qui il dit peu d'instants avant le dernier souffle « Ah, mamie, que de sang, que de meurtre, que j'ai eu de mauvais conseils. Oh mon Dieu, s'il te plaît, fais-moi miséricorde. » Henri III, qui le remplace et avec qui va finir la branche des Valois, n'est pas le prince efféminé, voluptueux, indolent, que nous a dessiné longtemps la légende. Ou plutôt, on ne doit voir là qu'une des faces de son caractère. Il offre d'autres traits qui, dans un temps plus calme, en eussent pu faire un grand roi. C'est un homme de 23 ans, beau, élégant, fin, de meilleure chair que ses frères, assez robuste même, hardi cavalier, soldat brave, très italien assurément par les instincts, la dévotion superstitieuse, le goût du luxe, de la parure, des pierreries, des parfums, mais en même temps de vive intelligence, ayant des vues, de l'éloquence, de la souplesse et à l'occasion de la fermeté, enfin pénétrée de la vraie tradition monarchique française. L'assaut renouvelé des passions religieuses, les plus âcres de toutes, ne lui a pas permis de donner réellement sa mesure. Mais ce prince, à plusieurs reprises, a montré un vrai mérite et c'est justice de dire qu'il a sauvé la royauté au péril de sa vie en lui léguant Henri IV. Dès le début, il marque ses intentions d'autorité, mais aussi de tolérance, et se met de bon cœur aux affaires. Elles sont dans l'état le plus désastreux. Le trésor est vide. Catholiques et protestants demeurent en guerre ouverte. Les gouverneurs de province se sont rendus quasi indépendants. La féodalité renaît. Henri III, une fois sacré à Reims, se débat dans un inextricable lacis de difficultés. Voyant Guise grandir et le pays se défaire, Catherine et Henri III, gouvernant en plein accord, se décident à traiter avec les protestants, quitte plus tard à l'italienne, à reprendre les avantages consentis. Ces avantages sont immenses, ils sont scandaleux, c'est une querée, c'est la paix de Beaulieu. Henri III a cru ainsi désarmer les Huguenots. Il n'a fait qu'ameuter contre lui les catholiques. Guise, aidé par le clergé, fourni d'argent par l'Espagne, organise une ligue dite la Sainte Union, qui se dresse contre la royauté pour réclamer, avec la restauration de l'Église, le retour des provinces et des villes à leurs anciennes libertés. À la faveur du désarroi des esprits, Henri de Guise ne prétend rien moins qu'à détrôner les Valois et, arguant de son incertaine descendance de Charlemagne, à usurper la couronne. Entre protestants et catholiques se multiplient escarmouches, prises ou pertes de petites villes. Henri III pense clore les hostilités par la paix de Bergerac. Nul ne lui obéit. La mort du duc d'Alençon, le dernier fils de Henri II, vient encore compliquer cette situation. La couronne doit revenir désormais au Huguenot Henri de Bourbon, roi de Navarre. La ligue jette flamme. Le duc de Guise s'allie ouvertement avec le roi d'Espagne pour extirper le protestantisme. Enfin, le pape Sixte Quint, l'énergique réformateur de l'Église, rend une bulle qui déclare Henri de Navarre déchu de ses droits au trône et le frappe d'excommunication. Le Parlement de Paris, pourtant très attaché au catholicisme, refuse d'enregistrer la bulle et proteste contre elle avec une fierté nationale. Beaucoup de bons Français, dès ce moment, sont acquis au tiers parti, le parti des politiques, qui n'ont en vue que la fin de cette douloureuse anarchie et la restauration de l'autorité. Les haines religieuses, les intérêts des grands parlant encore trop haut, étouffent leur voix. Henri III, chassé par les barricades de Paris à demi insurgé, se réfugie à Chartres, puis convoque à Blois les États généraux. D'un assassinat à l'autre. À la dévotion des Guises, les États se montrent très hostiles au roi. Henri d'abord tergiverse. Menacé d'un attentat, il se décide à frapper. Il décapitera la Ligue en faisant périr les Guises. Le duc est prévenu par des espions. Il sourit dédaigneux. Il n'oserait. Le 23 décembre 1588 au matin, il est appelé au conseil. Au passage, les 45, la garde gasconne du roi, l'assaillent et le percent de leurs poignards. Au même moment, son frère le cardinal est arrêté. On l'assommera le lendemain dans la tour de Blois. Henri III, passant devant le cadavre du duc, tombé auprès de son lit, murmure « Qu'il est grand !» Il descend chez la reine mère, à présent vieille et malade, mais qui garde son esprit clair. « Madame, lui dit-il, le roi de Paris est mort. Je l'ai fait tuer, devançant ce qu'il voulait faire de moi. Je ne pouvais plus supporter ses insolences. « Dieu veuille, répond la Florentine avec un soupir, que vous ne soyez plus le roi de rien du tout. » Cette femme étonnante va s'éteindre 15 jours plus tard, dévorée de crainte et de chagrin. Le roi de rien du tout. Catherine ne se trompait guère. Henri III, excommunié par le pape et mis au ban de la France catholique, ne garde dans son obéissance que quelques villes du bord de la Loire qu'il tient par ses troupes composées surtout d'étrangers. Il ne se voit qu'une ressource, s'entendre avec Henri de Navarre, son beau-frère et son successeur légitime. Réunis, ils incarnent la continuité de la tradition royale. Ils peuvent encore espérer sauver le pays du démembrement. Les deux Henri confèrent à Plessis-les-Tours, où leurs armées se fondent. L'effet est salutaire sur beaucoup de nobles et de bourgeois qui, dans la détresse de la France, se sentent d'autant plus français. Les forces des deux rois grossissent. Les modérés, les politiques, se massent derrière eux. Ils marchent sur Paris et, arrivés à Saint-Cloud, commencent d'investir la ville, coupent ses approvisionnements. Le meurtre, hélas, appelle le meurtre. Les ligueurs dépêchent au camp d'Henri III un jeune moine dominicain, Jacques Clément. Reçu par le roi à son lever, il lui présente une lettre, et tandis qu'Henri III l'ouvre, il tire un couteau de sa manche et le frappe au ventre. Le roi se redresse et arrache l'arme en criant « Le méchant moine, il m'a tué !» Il meurt après 2 jours de souffrance, le 2 août 1589, à 38 ans. Mais son tragique règne a fait de cet homme naguère si séduisant un vieillard édenté et chenu. Avant de tomber dans le coma, il pardonne à ses ennemis et ordonne au chef de l'armée, à sa noblesse, de reconnaître pour roi Henri de Navarre. « Mon frère, faites-vous catholique, lui recommande-t-il en lui serrant la main, et il ajoute, prémonition suprême, « Voyez comme mes ennemis m'ont traité. Prenez garde qu'ils ne vous en fassent autant. » Ainsi finit, avec courage, un prince calomnié jusqu'à l'absurde, qui, s'il a commis des fautes et graves, n'a jamais oublié son devoir royal.